sok.
Radio Tentation. Autour de Jean-Luc Brisson, artiste plasticien, créateur de jardins. Radio Tentation, un plateau radio proposé par le Cosmos Collège et le Frac Paquin sur les ondes de la Grenouille. L'endroit, c'est ici, c'est la Gare Franche. Nous y sommes en public pour partager ce bon moment. Merci au public qui est venu nous y rejoindre. L'envers, c'est le paradis, qui, comme chacun sait, se situe entre Saint-Antoine et le Plan d'Ao. Et le paradis, c'est aussi le titre du livre que Jean-Luc Brisson va faire paraître à la rentrée et dont il nous donne aujourd'hui un avant-goût à travers une installation que vous pouvez voir en contrebas. Et puis ce plateau radio. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Prends ton micro. Bonjour.
Bonjour.
Autour de toi, sur ce plateau, Zora Adahatou et Soraya Saïd, qui sont venues en voisine, et puis Guéric Perret, qui est urbaniste, paysagiste, qui dirige l'agence ILEX. Joël Ricordet, qui est paysagiste lui aussi, enseignant à l'École du paysage de Marseille. Pascal Neveu, qui est directeur du FRAC PACA. Et puis Vladislav Snorko, directeur artistique du Cosmos Collège à la Gare Franche, et qui est notre hôte ce soir. Merci à tous d'être présents pour ce rendez-vous. Sur ce plateau, il sera question de paysages, d'aménagement urbain, de cités, d'artistes et d'habitants et de jardins, puisque le paradis, le mot paradis, avec son faux air de catholique romain, en fait, bien c'est un mot qui nous vient de l'Orient, du persan pardèse, et ça signifie jardin. Mais d'ici ou d'ailleurs, au fond, peu importe, le paradis, c'est un rêve révélé. Jean-Luc, ce paradis, il est sorti précisément de tes rêves et en faisant la sieste. Et au réveil de ces siestes, eh bien, tu rencontrais des gens qui venaient te parler. Au fond, au paradis, on n'est pas seul.
Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas si on n'est pas seul au paradis. Ça dépend de quel paradis on parle. De toute façon, le paradis, l'histoire du paradis, le mythe, on n'est pas seul quand même, on est deux. C'est déjà ça, parce que sinon, c'est déjà que c'était pas très drôle. On n'avait pas grand-chose à faire, juste à regarder les plantes pousser. Pas trop d'ailleurs, pas trop vite. Donc heureusement qu'on était deux quand même, sans nombril. Et puis après on est descendu ici, dans des lieux comme le Plan d'Ao. Le Plan d'Ao, ça veut dire le plan en haut, qui est déjà au ciel, quoi, que j'ai vraiment... petit à petit, c'est pas venu tout de suite, perçu comme un paradis.
Et dans ce paradis, donc, tu as rencontré des gens qui, à ton réveil, au réveil de ces siestes, venaient te raconter des choses, te poser des questions, te dire que la mer était bleue, mais pas tout à fait bleue. Et c'est à partir de ces rencontres que tu as commencé à construire les différents éléments qui ont émaillé ta résidence ici, au Plan d'Ao, au Cosmos Collège.
Bah, tu sais, je ne sais plus très bien, en fait, parce qu'il y avait aussi, dans la sieste, il y avait les rêves. Donc tout ça s'est mélangé et surtout je voulais pas faire une enquête, j'ai pas vraiment noté tout ce qu'on me disait, je sais plus faire la part des choses, la part du rêve et la part des vraies paroles.
Quand tu dis que tu as pas voulu faire une enquête, c'est-à-dire que tu as pas voulu structurer ici ton regard sur la cité, sur les habitants, tu as voulu laisser venir les choses à toi.
Bah, c'est le lieu surtout qui m'a attiré. Alors bien sûr, dans ce lieu, il y a des rencontres, mais j'étais en résidence dans cette maison, dans la Gare Franche, et on m'a rien demandé. J'aurais très bien pu descendre au village, à Saint-Antoine, et j'étais toujours attiré par le haut, par le jardin du haut. Et c'est vrai que surtout quand on s'y promène en ce moment, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. C'est vraiment un paradis. Cette vue, cette situation est étonnante.
Il n'y a pas forcément besoin de faire un dessin, mais peut-être tout à l'heure on aura l'occasion de d'écouter quelque chose d'un peu particulier que tu as proposé à certains participants d'atelier, qui est justement une dictée de dessin. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose qu'on écoute un petit son enregistré il y a quelques jours pour savoir à quoi ressemble le paysage au paradis. On écoute.
Écoute, on est juste au bord d'une petite falaise. On voit Marseille, enfin, on voit surtout la partie nord, on voit l'Estac, on voit le port, on voit la cité de la Bricarde qui est juste en dessous. C'est bien implanté, quoi. On sent que c'est un territoire. Et puis quand on remonte le coteau, il y a une densité très forte sur ce coteau. Ça change avec le quartier du Plan d'Aou, où il y a beaucoup d'espace et beaucoup d'opportunités, du coup. Et là, on est à côté d'une table de pique-nique, sous des pins parasols, il y a un banc. C'est vraiment paradisiaque.
C'est un endroit que les professionnels du paysage appellent, je crois, le tiers paysage.
Ça, c'est une expression de Gilles Clément, c'est-à-dire le tiers paysage, c'est un peu comme le tiers état, c'est celui qu'on a un petit peu oublié, qu'on a laissé et qui pèse hein, aussi, qui commence à compter dans le paysage et dans le paysage politique. Alors effectivement, oui, il y a quelque chose du tiers paysage. C'est un jardin... pour qui le cherche, pour qui veut le voir. Hein. Et ça crée une tension assez émouvante, assez étonnante.
Alors, on vient d'entendre parler à l'instant de tiers paysage, une notion effectivement apportée par Gilles Clément, un très célèbre paysagiste. Je voudrais proposer peut-être à Guéric Perret et à Joël Ricordet, qui sont eux-mêmes paysagistes, ce qu'ils pensent à propos de cette notion de paysage, de tiers paysage. Guéric Perret.
Il n'y a pas vraiment de tiers paysage. Je pense que c'est le paysage, c'est une abstraction, c'est un élément culturel qui est multiforme, qui est surtout pas la chose qu'il faut rechercher. Moi, je pense que sur le plan d'Aou, on est dans un lieu cosmique. Il n'y a même pas besoin de parler de paysage. On est peut-être pas encore au paradis, mais on est sur la route. Et je trouve que il y a des tas de choses qui se passent. Et du coup, voilà, il y a une identité, il y a une vie, et tout ça, ça fait le paysage. Mais moi, je n'utilise jamais ce mot-là, ou du moins, j'essaye de l'éviter, parce que c'est un peu un piège, quoi. Donc...
Le tiers paysage, c'est un peu comme le tiers état, quoi. Ça relègue quelque chose
d'une certaine manière. Formule. C'est une belle formule.
En tout cas, reste que ces interstices urbains, ces enclaves, ces bouts de ville, on les appellera comme on voudra, aujourd'hui, elles sont un petit peu des nouvelles frontières, non, pour les paysagistes. Ce sont des territoires sur lesquels vous avez très envie d'intervenir.
Ici, en particulier, moi, il y a une sensation qui est extrêmement forte, c'est l'idée de la nature urbaine. Parce qu'on s'est promené avec Jean-Luc tout à l'heure, on a vu que le printemps faisait son œuvre là, avec toutes les petites fleurs qui ressurgissent. Et d'un coup, il y a un mélange entre cette nature végétale qui reprend le dessus. On sent que c'est très habité, donc le vivant est extrêmement fort ici. Et ce vivant-là pousse sur une espèce de rocher. Et moi, je trouve que on n'est pas du tout à la marge de la ville, on est dans la ville de demain. C'est-à-dire cette ville où il y a de l'aération, où il y a de la complexité, où on sort du schéma classique haussmannien. Bon, là, on a hérité d'un paysage créé dans les années 60-70, mais il y a beaucoup de possibles. Il y a de l'espace, voilà. Et il y a un site. Donc là, on est peut-être aux marges de la ville de Marseille, mais on est au cœur de la ville contemporaine, à mon avis.
Joël Ricordet, peut-être votre sentiment sur cette idée. Nous ne sommes pas du tout aux marges de la ville.
Non, c'est, enfin, j'adhère complètement à ce que dit Guéric. C'est-à-dire, on est effectivement dans la ville de demain, mais en même temps dans une situation qui me paraît qui est quand même un peu difficile. comment dire, dans une situation dans cette ville où l'action publique est un peu en retard, on pourrait dire, n'a pas pris conscience de tout ça.
C'est un
et qu'a laissé les choses en plan et qu'on se retrouve effectivement dans cette situation-là et que cette situation-là, elle est à saisir. Voilà, c'est cette question-là. C'est-à-dire que ces aérations, ces territoires apparemment abandonnés autour, mais en fait qui sont le lieu de multiples pratiques, de pratiques qui se collent du coup au terrain, puisque c'est celle du piéton, c'est celle de l'action individuelle, c'est celle du sentier, du chemin, où les choses se font, les gens font la ville avec leurs pieds dans ces territoires-là. Donc ça reste à réintégrer dans la pensée de ces endroits. Et ça reste à reconnaître véritablement, et non pas comme étant des choses marginales qu'on devrait écarter au profit de très beaux plans d'urbanisme, je sais pas quoi. Donc là, on a le matériau est là, enfin les gens sont là, la vie est là, et la pensée elle est à naître, quoi.
Observer les circulations, observer les usages des habitants, c'est évidemment quelque chose qui semble tout à fait naturel, bien que ce soit, il faut bien le dire, pas toujours le cas dans le cadre des plans d'urbanisme. À l'instant, Guéric Perret disait que la cité du plan Dao, c'est peut-être la ville de demain. Encore faudrait-il qu'on lui en donne les moyens. C'est vrai que très souvent, lorsque l'on vous appelle, vous, aménageur urbain, paysagiste, c'est que le projet sur lequel vous êtes appelé, eh bien, il bénéficie d'une économie, il bénéficie d'un soutien. Vous avez, je crois, à Marseille notamment travaillé sur l'aménagement des extérieurs de la gare Saint-Charles, sur l'aménagement de la Canebière, sur l'aménagement de la rue de la République. Autant de chantiers sur lesquels les moyens qui étaient déployés étaient importants. Comment imaginer faire travailler des paysagistes sur des cités ou sur des espaces de la ville qui sont beaucoup moins bien dotés?
Les opérations sur le centre-ville, c'est des opérations d'aménagement pur et simple. C'est-à-dire qu'il y a un relookage, il y a une mise à niveau, voire une mise en valeur des trottoirs, du mode de fonctionner. C'est-à-dire que sur la Canebière, par exemple, la circulation a été réduite au profit du tramway, etc. Ici, on est dans la complexité, puisqu'il n'y a pas d'ordre facilement discernable. On peut pas, y a pas une logique qui régit ces quartiers. Il y en a plein et c'est... Il y a d'abord une géographie, ensuite il y a un ordre architectural qui a subi un certain nombre d'agressions, d'oubli, et on a ces territoires vides. Donc là-dedans, en général, la première chose à faire, c'est d'essayer de reconceptualiser, de donner une identité à ces vides. À quoi, comment on peut transformer ce qui est aujourd'hui l'arrière des bâtiments ou des espaces purement fonctionnels en lieu de vie? Comment est-ce que on peut, en regardant la plante pousser, dire ça va devenir un jardin, comme fait Jean-Luc. Et ça, il faut donner envie. Alors, nous, on travaille sur la commande, c'est-à-dire que on nous dit, voilà, il y a un espace à aménager, une copropriété, un ensemble de logements. Notre boulot, à travers cette commande-là, c'est d'essayer d'élargir et de passer à la notion de paysage, justement, c'est-à-dire franchir les limites du tableau et à emmener vers cet avenir, cette ville de demain, parce que derrière, on trimballe une éthique, on a une envie qui est plus profonde et plus importante que ce que la commande nous donne. Et en général, les commandes sont faibles. Moi, j'ai travaillé dans des quartiers, j'ai pas travaillé dans des quartiers de ce type-là à Marseille, mais autour de Lyon, qui est ma ville, je dirais, de point de la ville de mon agence, on a travaillé avec trois bordures de trottoir, deux arbres, etc., pour essayer de redonner inventer des lieux, retrouver des mosaïques de lieux qui font que les pratiques vont retrouver des endroits où s'installer, et puis sans grande ambition. C'est-à-dire qu'on est très humble dans ce qu'on fait. Mais si on arrive à faire bien des petites choses et qu'on arrive à les reconceptualiser dans un ensemble assez vaste, qui dépasse la copropriété ou le périmètre, eh ben, je pense qu'on peut entraîner derrière nous beaucoup d'enthousiasme de la part des maîtres d'ouvrage, de la part des populations qui sont en place, parce que si elles comprennent, si on arrive à expliquer correctement, eh ben là, il y a une transformation. Et donc, ça, c'est du... je pense que c'est là l'intervention sur la ville de demain. C'est une intervention très concertée, quoi.
Alors, effectivement, c'est une opération très concertée, mais elle procède de la commande publique. Et tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le fait que cette concertation se passe de bonne manière. On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux habitantes qui viennent de ce quartier. Peut-être Zora et Soraya, si vous voulez bien prendre un micro. Et est-ce que, dans le cas précis de la cité du Plan d'Ao, qui est en ce moment l'objet d'une restructuration, on y construit à côté une autre cité, on y construit un mur aussi pour séparer ces cités. On vous bouche la vue, pourtant cette vue si magnifique et si paradisiaque qu'on évoquait. Et ça a été fait avec un gros déficit de concertation. On ne vous a pas demandé votre avis.
Ben non, pas du tout. On ne nous a pas demandé notre avis. Et d'abord, ce mur, pour nous, ça représente le mur de Berlin. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas pris notre avis, quoi. C'est dommage qu'ils ne nous ont pas parlé d'abord avant de... Par rapport à tout ce que j'entends, moi, dans la cité venant de... je vais citer un nom, M. Vouglimassi, qui est directeur général de Eridia. J'entends toujours dire que les habitants du Plan d'Ao sont des bêtes, sont des sauvages, on ne connaît rien du tout, on n'est pas instruit. Or que, on ne nous concerte pas. Comment vous voulez qu'on s'exprime? Comment vous voulez qu'on donne notre avis? Alors que, voilà, tout est construit et on arrive, c'est déjà fait, c'est... On n'a plus rien à dire. Quoi.
Ce mur, c'est le symbole de ce qui se passe sur la cité du Plan d'Ao. Au début, ils nous ont promis l'ouverture sur le quartier sera ouvert puisque sur tous les quartiers. Et là, ils ont séparé le monde des riches de l'autre côté et le monde notre monde de l'intérieur. C'est le symbole de la fermeture. Au début, ils nous ont promis l'ouverture et ça, c'est tout un symbole.
Est-ce que, à défaut de vous avoir demandé votre avis avant de construire le mur, quelqu'un est venu pour vous expliquer après à quoi il servait ?
Ni nous ont demandé ni l'avant ni le après.
Peut-être
un jour, c'était pendant les vacances, on est revenu, on s'est levé, on a vu le mur monter.
Peut-être Joël Ricordet, comment est-ce que vous percevez, vous, ce déficit de concertation ?
Je sais pas comment. il me paraît.
Est-ce que dans votre pratique courante, vous, en tant que paysagiste, aménageur, vous êtes confronté aussi à cette réalité ?
Il me paraît malheureusement pas surprenant. C'est-à-dire que.
On a posé la question, on a dit pourquoi ce mur a été monté. Ils nous ont dit que les logeurs, ils disent que c'était un terrain qui appartenait à la mairie. La mairie, elle dit que c'est aux logeurs. Et on n'arrive pas à trouver de réponse. Mais le mur, il est là.
Ouais. Ce qui me frappe, c'est que quand on va sur le terrain et qu'on voit l'avancement du chantier, de cette... vous avez employé le mot de restructuration, je crois. Mais moi, pour moi, ce que je vois, ça réfère plus à l'univers de la rénovation urbaine des années 50. C'est-à-dire quand on rasait des quartiers dans les centres-villes pour construire de nouvelles habitations et que les gens partaient en banlieue, habiter dans les grands ensembles. C'est, pour moi, c'est à peu près c'est la même violence, alors que ça ne s'affiche pas du tout de cette manière-là. Ça s'affiche, on crée un nouveau paradis, puisque les nouveaux logements sont sans doute mieux que les anciens, à voir, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que ça s'affiche.
Le paradis, excusez-moi, avec l'espace, parce qu'on nous a promis l'espace vert, voilà. C'est le paradis avec l'espace pierre pour l'instant.
Oui, et il y a cette espèce c'est un travail univoque. Je trouve assez emblématique l'espèce d'esplanade là, qui est au milieu, qui vient d'être aménagée, qui est un aménagement très récent, je pense. À un moment donné, hop, l'aménagement s'arrête, et puis après, c'est le terrain vague. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce... et donc, ces nouveaux aménagements, ils ont... Du coup, je pense que pour les gens qui habitent là, pour l'instant, ils n'ont pas de sens. Ils ne peuvent pas prendre de sens. Ils sont là, dans les airs. Peut-être un paradis demain, mais pour l'instant, c'est rien. Et simplement parce que le lien n'est pas établi, et puis ça va rester comme ça, une partie à l'abandon pendant encore 4 ans, et puis une partie aménagée là, et puis, etc., etc. Et au bout du compte... on se demande bien comment ça sera, quoi.
Et comment faire, une fois que ce mur est construit, une fois que le mal est fait, en quelque sorte, comment est-ce qu'on peut réparer ces plaies dans la ville ?
C'est de détruire ce mur avec les habitants du plan d'arbre, parce qu'on n'a pas besoin de ce mur, quoi. On est pareil que les autres qui sont derrière ce mur. En fait, c'est de détruire ce mur.
Peut-être Jean-Luc ? Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce premier échange ?
Il y a quelqu'un du quartier qui est très malin, qui parle bien, qui m'a parlé de la mixité. Il me disait, il y a un mot qu'on prononce tout le temps en ce moment, c'est la mixité. Et puis il me dit, la mixité, moi ça ne me dérange pas. Les bourges, ils peuvent venir, mais je crois que peut-être moi je vais les déranger. Et je trouvais que c'était assez intéressant comme vision. Et que ce mot avait du mal à passer, quand même, mixité. On voit bien avec le mur que ça passe pas bien, quoi. Mais je crois que pour reparler du nouvel aménagement auquel faisait allusion Joël, effectivement, là, il est tout neuf. Il vient d'être... Enfin, je sais pas s'il a été inauguré, mais il vient d'être construit. Et finalement, il ne peut aller que vers une espèce de dégradation. Alors que ce qui est autour ne peut aller que vers le mieux. Et on pourrait imaginer quand même quelque chose de beaucoup plus vivant qui soit entre les deux, un jardinage permanent, c'est-à-dire essayer d'éviter le saccage dans ce qui est tout neuf, et puis attendre d'avoir les moyens dans le terrain vague de faire l'équivalent de la soucoupe volante qui vient de se poser. Mais peut-être de voir les choses plus globalement et que toute cette perméabilité, toute cette permissivité qu'il y a dans le quartier, finalement, inspire une forme d'aménagement. Sans doute, là, il ne serait même pas question de concertation, il serait même question de participation, sans doute, où les gens pourraient vraiment, comme ils ont toujours fait, tracer des chemins. Ils n'ont pas attendu qu'on leur trace des chemins. Ils ont tracé des chemins pour descendre dans la cité en bas, pour aller ailleurs, etc. Et donc, cet état trop contrasté entre ce qui est neuf et ce qui est un chantier, ça va pas.
Alors pour aller mieux, je te propose, Jean-Luc, peut-être de lire un des textes qui est extrait du Paradis. Et je te propose de lire quelque chose qui est entre la plante et l'arme, la fausse roquette.
Ah oui, la fausse roquette. Diplotaxis erucoides. Des tapis de roquettes. Comment la personne à qui je le dis au téléphone a pu comprendre qu'un arsenal de fusées offensives, des roquettes, sont apparues à Marseille sur le plan d'Aou. La roquette est un motif décoratif qu'on trouve sur les tapis que tissent les Afghans et qui représente les différents armements utilisés pendant leur guerre. La méprise revient à imaginer que sur les terrains de tennis, par exemple, il y a beaucoup de raquettes. Les raquettes ne sont pas nécessaires pour jouer au basket. Et au plan d'Aou, le terrain de basket est entouré de roquettes. Les joueurs s'allongent parfois dans la roquette en délassant leur basket. Une raquette est aussi un panier, un basket, plat. La roquette qui fleurit en nombre dans le quartier, il y en a plein en ce moment. C'est vraiment, enfin, ça fait un moment, mais là, elle est vraiment bien représentée, très bonne. La roquette, donc, qui fleurit en nombre dans le quartier, produit des fleurs blanches en cette première semaine du mois de février. J'en ai même vu fleurir en décembre. Crucifères. Ces porteuses de croix ne racontent pas que des salades. Elles sont des salades. N'attendez pas le saladier, la vinaigrette coule à même le sol. Vous imaginez bien un ermite se passer d'assaisonnement. Le sol est parsemé de taches d'huile, mais je ne crois pas que l'on cueille cette salade ici. Pourtant, beaucoup d'habitants m'ont dit la connaître. En vérité, ce n'est pas de la roquette. Les fleurs de la vraie roquette, ou plutôt de la roquette cultivée, sont jaunes, et elles s'appellent justement Eruca sativa. Sativa veut dire cultivée, et Eruca, qui signifie également chenille, désigne l'amertume, l'amère à en éructer, à en vomir. Qui a goûté une chenille sait que c'est un concentré d'amertume, mais la fausse comme la vraie roquette sont délicieusement amères.
La fausse roquette, un texte qui est extrait du Paradis en avant-première aujourd'hui. Eh bien, du texte à la dictée, c'est notre parcours maintenant, une dictée de dessin. Les moutons dans la prairie et Jean-Luc Brisson en atelier. On écoute le son.
Je suis en train de essayer de m'approprier ce qui se passe derrière là, les cris. Donc, la route là-bas qui descend, la grande route où il y a des voitures, les collines, les montagnes au loin, puis la mer.
Et donc vous aurez 20 secondes pour faire apparaître, si par exemple, je sais pas, je dis une chaufferie, bah vous aurez 20 secondes pour faire apparaître une chaufferie, mais c'est pas la chaufferie en général, c'est celle qu'on a pu voir ce matin, comme si on avait à l'observer comme un paysage. Quoi. Voilà. C'est ça le principe de la dictée. Une grue. Et puis il y a un autre intérêt dans cet exercice, c'est que dessiner, c'est souvent faire des dessins ratés. Parce que quand on peut le comparer au motif, il y a toujours quelque chose qu'on a oublié, qui n'est pas comme on voudrait. Donc c'est vrai qu'un dessin sur le motif, c'est parfois un peu cruel. On voit que les défauts. Et là, dans la dictée, on ne voit pas les défauts, on cherche à faire apparaître. Donc ça peut aller que vers une certaine satisfaction de se représenter ce que l'on a vu et ce que l'on a dans notre mémoire.
Dessiner le paysage, un élément très classique de l'art pictural qu'on a presque pu penser désuet dans le cadre de l'art contemporain qui était peut-être beaucoup plus abstrait en dehors de cette pratique de dessiner le paysage. Peut-être Pascal Neveu, vous êtes, je le rappelle, directeur du FRAC PACA, Fonds Régional d'Art Contemporain. Comment est-ce qu'aujourd'hui les artistes contemporains appréhendent le dessin du paysage, le regard sur le paysage, sans doute avec de nouvelles pratiques?
C'est une question bien vaste parce qu'il y a vraiment énormément d'attitudes d'artistes aujourd'hui à l'égard du paysage, des territoires et des façons de l'expérimenter et d'en rendre compte qui passent aussi bien par la marche, la promenade, le dessin, la peinture, la vidéo, la photographie, enfin tous les médiums sont convoqués pour essayer de rendre compte du paysage, mais c'est aussi une façon que les artistes ont aussi de rendre compte de la société dans laquelle on vit. Et le paysage est souvent le prétexte à toute une analyse politique, sociale, économique, architecturale d'un territoire. Et les formes artistiques sont là uniquement au service de la position de l'artiste et de sa position politique, en fait, quasiment.
Le dessin sur le paysage, effectivement, quelque chose qui a forcément quelque chose à voir avec une position politique, décidément, on y revient. Tout à l'heure, dans le sujet qu'on a entendu, Jean-Luc Brisson évoquait le dessin raté. Et le fait que, au fond, un dessin, il n'était jamais vraiment raté, ou que le fait qu'il soit raté, au fond, c'était pas un obstacle, c'était une manière de découvrir les choses autrement, qu'il faisait apparaître, au travers de ce ratage, le paysage autrement. Ceci dit, il en est un petit peu différemment lorsqu'on est aménageur urbain, lorsqu'on est architecte, lorsqu'on est paysagiste, parce que là, quand on a raté son dessin, on en prend pour 50 ans. Donc peut-être Guéric Perret ou Joël Ricordet, comment est-ce que vous percevez, vous, cette difficulté lorsque vous imaginez un projet, de devoir livrer un dessin, de devoir livrer un avant-projet, et puis de vous dire, bah là, il faut vraiment que je sois certain de moi, parce que bah, après, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans une grande pérennité. Guéric Perret.
Je crois que c'est pas des choses comme ça aussi linéaires et aussi tranchées. Je crois qu'un projet, c'est d'abord une attitude par rapport à la commande, à la contrainte, par rapport à ce qu'on peut percevoir du site. Et puis, c'est aussi une itération. C'est-à-dire qu'on commence, on amène une idée ou plusieurs idées, et puis on débat, on revient. Et progressivement, les choses ne se font jamais comme ça, de façon immédiate et définitive. Et je crois que, encore moins en paysage, peut-être que certains projets, concours d'architecture, bon, on décide d'une chose ou d'une autre, mais le paysage, je disais tout à l'heure, c'est un travail sur l'envers du décor, justement. C'est un travail sur ce qu'on appelle le vide, c'est-à-dire c'est sur l'espace à vivre, c'est le lieu de toutes les pratiques, c'est le lieu où tout se croise. Finalement, personne n'est d'accord, souvent. Et donc on peut pas le conceptualiser avec un dessin. Il faut d'avoir plusieurs dessins, il faut en général beaucoup de mois ou d'années.
Dans ce processus donc d'élaboration, c'est quelque chose qui fait intervenir peut-être des éléments de sociologie, des éléments d'anthropologie, des éléments de philosophie, des éléments de sciences humaines. C'est autant d'éléments qui nourrissent la réalisation d'un projet. Je vais le recorder.
Oui, oui, c'est se projeter dans l'avenir, mais c'est pas se projeter soi, c'est emmener un certain nombre de choses, emmener des pratiques, emmener des usages, des compréhensions, des discussions avec des habitants, avec je sais pas, c'est se nourrir de tout ce territoire, de toute cette matière et l'emmener et proposer de la projeter au-delà. Alors le projet raté, c'est celui qui, enfin le projet réussi, c'est celui qui se voit pas après. Qui fait dire à certains, mais alors tout ça pour ça. Enfin, il y a cette notion-là quelque part. Et je trouve l'installation de Jean-Luc, il y a quelque chose il y a un petit mot qui est assez joli et qui correspond assez bien. Je trouve que où il écrit toute modification devrait pouvoir surgir à chaque instant comme un jeu d'enfant. Voilà. Si voilà, ça c'est un projet réussi.
La réussite, c'est quelque chose qui est spontané, aussi spontané qu'un dessin d'enfant, dessiner le paysage, le regarder, le filmer, une réflexion sur le reflet. On écoute maintenant Les Flaques. C'est une lecture réalisée par les élèves d'une classe de 5e du collège Elsa Triolet, enregistrée par Nelly Fleischer.
Un quartier comblé est un quartier sans flaques, où tous les trous de la voirie ont été rebouchés. Ici, l'entretien laisse à désirer, ou plutôt laisse de la place au désir. Chaque excavation est une attente de la pluie. Il a plu hier et aujourd'hui. L'eau reflète le ciel. L'averse du matin ou de la veille est encore visible. La flaque fait voir en arrière. Il y a de l'hier dans l'aujourd'hui. La flaque est un rétroviseur du temps. Le ciel est visible en regardant par terre et non pas en levant la tête. Les poules de ces nids de poules ne pondent pas d'œufs. Elles pondèrent parfois la vitesse des véhicules. Les grands pontes comme les autres doivent ralentir pour ne pas subir trop durement les chaos. Le manque d'entretien de la voirie d'un quartier lui procure, quand il a plu, 1000 petits miroirs pour se refaire une beauté. Qui a plu plaira, sauf s'il est indifférent au regard des autres.
Un quartier comblé est un quartier sans flic, pardon. Un quartier sans flaque, c'est ce qu'on entendait au début de ce son. Trous et nids de poules, stigmates, manque d'entretien. C'est l'abandon d'un quartier qui parfois le transforme en paradis. Ça, c'est ce que disait Jean-Luc Brisson. Mais c'est aussi parfois l'abandon d'un quartier qui le transforme en enfer pour ses habitants. Ce qui met en exergue la notion d'entretien du paysage, d'entretien des cités. Et c'est souvent ce défaut d'entretien, ce défaut d'attention qui amène des situations de tension et de conflit. Dans ces situations, situations de tension et de conflit, souvent les artistes ont été envoyés un peu comme des médiateurs pour être là et en quelque sorte essayer de résorber ces conflits ou les atténuer. Peut-être Jean-Luc Brisson, bien Vladislav Snorko, votre sentiment à cet égard?
C'est une histoire magnifique. Je vous écoute avec toute oreille déployée. Et en fait, à chaque mot, je pense à un monsieur qui est décédé, qui s'appelle Gaston Chessac.
Et qui, très grand artiste plasticien, effectivement.
Voilà, et qui trouvait des trucs dans la rue, qui peignait dessus, et qui était en fait réparateur de chaussures, on dit, de cordonnier. Mais comme il semblait être un peu fou, personne lui filait une paire de chaussures. Et lui disait, une paire de chaussures me suffirait pour faire une œuvre pour un mois. Une paire de chaussures, mais personne venait. Et il a fait un texte qui est devenu célèbre, bien sûr, après sa mort, qui s'appelle « Le laisser-aller des éliminés ». Et j'ai l'impression qu'au départ, le plan Dao, qui est effectivement, je ne dirais pas un paradis, mais un parc à radis, est un endroit magnifique, mirifique, pour les habitants éliminés. C'est-à-dire une sorte de Guantanamo situé dans un endroit qu'on est en train de ghettoiser et dont on essaye d'ouvrir en fait les portes pour que les gens puissent sortir et être heureux. C'est pas une question d'urbanisme du tout, c'est aussi une question d'éducation, simplement.
Et comment situes-tu ta présence, toi, dans ce Guantanamo ?
Écoute, moi, je suis un pirate. J'ai eu une très rude relation dans les années 80 avec une cité hyper chaude qui s'appelait les Minguettes à Vénissieux. Et où j'ai travaillé avec des gens et de toutes parts, des jeunes. Et je pense que la parole, la rencontre, ça a fait quelque chose d'extraordinaire, alors que c'était le premier haut lieu du grand banditisme en France.
On a souvent envoyé les artistes, je le disais, en médiateurs dans des cités, dans des quartiers où on pensait que leur présence et leur travail étaient de nature à la fois à rendre la vie plus agréable, c'est quand même une des fonctions de l'art, et puis peut-être aussi d'être un peu des pacificateurs. Peut-être Jean-Luc Brisson ou Pascal Neveu, sur cette idée que l'art aurait pour fonction de réparer les clivages que la société fabrique. Pascal.
Moi, je suis exactement persuadé de l'inverse. C'est-à-dire que je pense que les artistes n'ont pas pour mission d'aller réparer ou penser les plaies d'un urbanisme ou d'une politique de ville qui soit mal faite ou pas du tout pensée. Mais au contraire, qu'on le voit avec Jean-Luc sur le plateau d'Aou, que les artistes ont une vraie empathie, une vraie sensibilité par rapport à des territoires et que c'est justement cette dimension-là humaine qu'ils peuvent faire ressortir, mais il ne faudrait pas non plus les instrumentaliser et penser qu'ils sont entre l'architecte, l'urbaniste, le paysagiste et que l'artiste vienne à un moment donné pour régler tous les problèmes qui peuvent se poser ici et là. Donc ce serait leur faire jouer un mauvais rôle. En tout cas, ils ont un rôle de révélateur, ils ont un rôle aussi de passeur, mais sur des formes qui sont des formes plus sensibles et là, pour le coup, moins politiques, parce qu'un artiste, c'est plutôt quelqu'un qui doit garder cette liberté de pensée, d'action, de production et être aussi intégré par rapport à un territoire qu'il expérimente.
Vlad Snorko.
Oui, juste Pourquoi vous êtes venu me voir, monsieur? Pourquoi vous venez nous voir? Je leur réponds, je suis stupéfait par leur question. Je leur réponds, parce que personne n'est venu me voir, moi.
Il faut venir, effectivement. Il faut que les gens circulent, il faut que les gens se bougent, il faut que les artistes aussi contribuent à faire venir là où ils travaillent, là où ils sont, de toute la ville, leur public, après tout, et que cette circulation des idées et des personnes, elle contribue elle aussi au désenclavement. Eh bien justement, sortir des enclaves, des territoires, circuler, c'est aussi ce qu'a fait Jean-Luc Brisson, notamment dans le quartier de Saint-Antoine. Et on va entendre tout de suite un petit extrait sonore de sa présence sur le marché de Saint-Antoine.
Prenez une image, si vous voulez.
Le paradis au marché, le grand marché du paradis, l'urbanisme et sa relation au marché, sa relation à l'économie, sa relation aux politiques, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, peut-être là plus précisément sur ce champ de comment est-ce que des artistes, des paysagistes, des aménageurs urbains se relient aux politiques et à l'économique et comment ils le perçoivent. Guéric Perret, vous le percevez comme une contrainte, cette relation politique, ou est-ce qu'elle vous semble naturelle et nécessaire et facile?
Non, nous... Nous sommes des auxiliaires, hein. Je veux dire, sans le politique, il n'y a pas de commande, on devient des artistes. Aujourd'hui, nous, on ne se place pas dans cette situation-là. On essaye de traduire la commande dans quelque chose de vivable, dans quelque chose qui nous paraît, dans notre éthique à nous, être un avenir pour les sites et les espaces. Donc, sans politique, il n'y a pas d'aménagement. Mais par contre, on n'est pas forcément d'accord. Et notre boulot, c'est de montrer, parfois de déformer la commande, de faire évoluer la demande pour faire, à travers cette commande, faire passer de nouvelles idées. Mais directement comme ça, on est obligé de passer par la porte de la maîtrise d'ouvrage et d'une question posée. Et notre boulot, c'est de problématiser ça et de le ramener sur un niveau qui dépasse celui de l'aménagement. C'est ce qu'on demande d'ailleurs aux étudiants quand on travaille sur des sites sans programme complètement déterminé, d'essayer de capter avec toutes leurs antennes qu'est-ce qui dans l'observation qu'ils peuvent avoir des usages ou qu'est-ce qui va faire sens, qu'est-ce qui va être un embryon pour développer quelque chose d'autre. Et je pense que cet exercice-là, on le fait faire de façon théorique et pédagogique aux étudiants, mais il faut que nous, chaque fois, on le fasse pour optimiser, pour pouvoir renvoyer aux politiques ou à la maîtrise d'ouvrage un message pour organiser, pour orienter. Voilà. Mais on ne le fait pas directement. On n'est pas des censeurs. On n'est pas des...
Mais est-ce que ce message, il prend parfois une certaine force, enfin une volonté de résistance par rapport à... Ben, disons le mot, par rapport à la spéculation immobilière. Est-ce que vous intervenez parfois pour mettre une sorte de holà ou essayer d'envisager l'aménagement urbain autrement que comme une source première de profit?
Les paysagistes ne sont pas des générateurs de profit. En général, ils génèrent de la dépense sans recette. Parce que, à la différence d'un promoteur immobilier qui va faire de la surface à construire, ce qu'on appelle la chaune. Nous, on crée de la dépense et souvent, c'est les pouvoirs publics qui endossent cette dépense. Donc, on est un peu plutôt traité c'est parfois superfétatoire, comme ça. C'est-à-dire que, oui, c'est encore de l'argent à dépenser. Alors, à travers ça, il y a plusieurs attitudes. Il y a l'attitude d'essayer de faire dépenser moins, déjà. Donc ça veut dire d'organiser la dépense et peut-être de bien placer de mieux replacer le sujet, où est-ce qu'il faut faire les efforts. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est de penser qu'entre l'investissement initial et sa pérennisation dans le temps, ces deux histoires qui ne sont pas du tout séparées. Et bien souvent, dans les lignes budgétaires, il y a de l'argent pour faire, il n'y a pas pour suivre, et pour entretenir, et pour faire vivre. Et aujourd'hui, la notion de paysage prend de plus en plus en compte ce double aspect. Et on essaye, nous, paysagistes, à notre petite échelle, de faire passer dans la commande l'idée que la gestion derrière va avoir autant d'importance, si ce n'est plus. Et moi, je travaille sur des espaces périurbains sur lesquels on dit on investit très peu. Par contre, comment est-ce qu'on va construire la gestion? Et ça, c'est une vraie question d'avenir.
Tout à l'heure, Zora et Soraya évoquaient le fait qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire par rapport à ce mur qui défigure leur cité. C'était pas de le relooker, c'était pas de l'arranger, c'était pas de l'aménager, mais qu'il fallait l'abattre, littéralement, et que c'était la seule solution. Alors, peut-être, Jean-Luc, est-ce que aujourd'hui, dans ce paradis, c'est pas une tentative qu'il faut faire, c'est un attentat?
Comment ? Oui, enfin, ce mur, c'est surtout qu'il empêche d'aller jusqu'au bout, quoi, d'aller là où la vue était extraordinaire. Et puis, il partage encore une fois ce quartier, le bien, le mal, le neuf, le vieux, ce qui va rester, ce qui ne va pas rester, etc. Enfin, c'est insupportable, effectivement. Oui, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut lancer un appel ou faut, je sais pas, moi, je sais pas.
Qu'est-ce que vous en pensez, Zora, Soraya? Ouais.
Je pense que oui, il faut faire un appel parce qu'il faut faire comprendre aux responsables, quoi, qu'ils ont construit ce mur. C'est que derrière ce mur, il y a tout un souvenir pour nous. Moi, je me rappelle en 78, j'allais jouer derrière ce mur. Alors c'était magnifique pour nous, parce que bon, pour moi c'était magnifique, moi qui viens de Madagascar, qui n'avais jamais vu un château. Donc derrière ce mur il y avait un château, et on allait jouer là-bas, c'était... Il n'y a pas de mots à dire, le souvenir est toujours là, mais ce mur il faut le faire descendre. Quoi.
Zora.
Parce que c'est pas que pour le mur qu'il faut faire un appel, c'est juste un symbole, il faut faire un appel pour tout le quartier. Comment dire ça? C'est comme un malade qui était atteint par une maladie et on lui a promis le remède miracle, mais on n'arrive pas à le trouver. Et cette personne, avec le temps, elle meurt. Elle attend juste son heure. Alors nous, ce quartier, c'était ça. Ils nous ont promis qu'on va s'installer, mais avec le temps, on voit que c'est pas pour nous. C'est juste... comment dire? C'est quelque chose, c'est une fausse promesse. Vous êtes là, on essaye de vous faire ça, mais c'est pas pour vous. Un exemple, nous, les enfants, on n'a pas le droit de rester sur le site. Il faut faire une décohabitation à l'extérieur. C'est que les parents qui restent sur le site. C'est-à-dire, c'est des personnes âgées que dans 10 ans, ils seront plus là. Comment vous dire? C'est le terrain qu'ils veulent, c'est pas nous, c'est pas le... C'est tout un symbole, je veux dire. Ce mur, c'est tout un symbole. Si vous avez vraiment de la puissance et il y a quelqu'un qui nous entend, qui... Nos parents, ils tiennent à ce quartier et nous aussi, qui nous donnent les moyens de leur montrer qu'on est capable de faire plein de choses, que c'est à nous, ça fait... On est nés ici, on a travaillé, on a attendu tout ça, mais on s'est battu. Mais à la fin, on se retrouve impuissant. Comme je vous dis, c'est comme une personne atteinte par un cancer et elle se voit mourir à la personne autour d'elle. Je veux dire, elle n'a pas de famille pour lui remonter le moral. Notre famille, nous, c'est les politiciens qu'on n'arrive pas, qu'ils n'arrivent pas à nous entendre. C'est les hommes puissants. C'est tout ça, je veux dire, c'est...
On a parfois le sentiment de se battre contre des moulins à vent, comme Don Quichotte, mais ça n'empêche pas
qu'il faut continuer le combat.
Non, mais je pense que on arrive à... on est usé. Je veux dire, ça y est, on a baissé les bras. Ben on attend juste la minute finale, la mort. C'est... on se laisse faire, je pense. On est arrivé à un moment où on se laisse faire.
Ne baissez pas les bras, et je crois que Jean-Luc Brisson est là peut-être pour vous aider à ne pas baisser les bras. Et en tout cas, pour nous donner lecture d'un texte qui n'est pas sans rapport avec ce qu'on vient d'entendre à l'instant, puisqu'il y est question de Don Quichotte.
Oui, mais je vais peut-être pas... je peux dire un mot avant
Bien sûr.
Parce que, on l'a dit avant, moi je peux rien faire contre ça. Tout à l'heure, on a passé le marché, des extraits du marché. Moi, sur le marché de Saint-Antoine, il y a une commerçante qui est venue me voir et qui m'a dit « Vous avez bien de la chance d'avoir rien à vendre, vous. » Tu vois ? Bon, et il faut remettre les choses
à leur place.
Est-ce
que c'était bien vrai ?
Oui, c'est vrai. J'avais rien à vendre. J'étais là pour montrer, pour apparaître comme ça, pour faire l'intéressant. Pas dans le mauvais sens du terme, mais parce que j'avais quelque chose à dire, un petit quelque chose à dire. C'est si ce petit quelque chose il déclenche, ça va. Mais moi, j'ai pas la dynamite. Mon travail, c'est pas, je suis pas artificier, ce qui m'intéresse dans cette résidence, c'est que je savais absolument pas ce que j'allais faire. Il n'y a pas eu de demande, on m'a rien demandé. J'avais pas du tout envie de réfléchir à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, au quartier, etc. Et on se retrouve à la fin de la résidence à parler de ces choses-là. Ça me plaît bien. Mais ce n'était pas du tout une espèce de préméditation. Et la sieste, ce n'était pas une méthode d'investigation du territoire. C'était que j'avais sommeil à un moment donné et que le lieu était parfait pour faire la sieste. Et de fil en aiguille, j'y suis revenu, etc. etc. Mais je suis très heureux qu'on arrive à soulever des questions comme ça et qu'on arrive à faire ce plateau et que on puisse dire des choses comme ça, mais je n'ai absolument pas de réponse et de force pour faire, pour sauver le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'artiste qui résorberait enfin je sais pas quoi, qui réparerait tout ça? Moi, j'ai très envie que ça se fasse, mais c'est pas en tant qu'artiste, compatir. Oui, alors je sais pas si je le lis, donc Quichotte, je vais le lire. Allez. Don Quichotte est passé au plan d'Aou. Appelé pour une affaire d'ermite délogé de son belvédère par un projet immobilier, il a couru. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Don Quichotte est passé au plan d'Aou. Appelé pour une affaire d'ermite délogé de son belvédère par un projet immobilier, il a couru. Ouais. Beau comme un dessin de... Comment ?
Plan d'Aou.
Ouais, excuse-moi. Tu m'avais dit pourtant.
Mais... Plan d'Aou, ça veut...
Mais oui, je sais.
Ça veut rien dire.
Mais je vais pas recommencer quand même. Si, bon, d'accord. Don Quichotte est passé au plan d'Aou. Dao.
Voilà. Il ne faut pas se négliger là-dessus parce que tout le monde va nous reprendre.
Oui, je sais.
À la radio, on aura des appels, il y aura des mails qui vont arriver.
Alors, si vous voulez bien, Vlad, reprenons. Reprenons
depuis le départ.
Bon. Personne qui veut me le lire là, parce que...
Si je veux bien le lire.
Tiens.
Vous êtes sur Radio Grenouille, nous sommes 88.8 et sur le nénuphar de la gare Franche, je vous lis un texte de Brisson sur le plan de Dao. Don Quichotte est passé au plan de Dao, appelé pour une affaire d'ermite. Délogé de son belvédère par un projet immobilier. Il a couru, beau comme un dessin de Picasso, illuminé de l'intérieur comme un bibelot en plastique, mais bon marché. Défile de ses pensées un personnage transparent aux intentions complexes. Il se découpait, magnifique, sur l'horizon. On aurait pu s'attendre d'ailleurs à ce qu'il découpât lui-même avec une arme de fabrication le paysage derrière lui. De sa fabrication. Il s'enquit quand même. Hein. Il s'enquit de tout sur les grues et les terres des seigneurs du lieu. Il demanda quel livre il pouvait trouver dans les combats chevaleresques qui ont produit ce fief perché. Don Quixote est un personnage politique. Soudain, son fidèle écuyer, impatient, lui crie « Dis-leur, dis-leur, mais dis-leur, dis-leur, dis-leur !» Le grand homme des combats imaginaires retomba dans son mutisme, son silence galopant.
Merci beaucoup à Vladislav Snorko pour cette lecture d'un texte de Jean-Luc Brisson qui fait partie du livre intitulé « Le paradis » qui est à venir très bientôt cet automne, je crois. Un livre qui va être accompagné d'un CD, quelques éléments sonores et aussi d'un DVD, des images tournées par Dominique Conta qui nous filme d'ailleurs en ce moment. Merci aux participants de ce plateau, Vlad Snorko, Soraya Ezora, Joël Ricordet, Pascal Neveu, Guéric Perret. Peut-être un dernier mot, Vlad ?
Juste un dernier mot. Vous êtes bienvenus ici, toujours, parce que nous aimons la radio. Nous ne savons pas exactement qui nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes une maison, la Gare Franche, qui est un lieu de passage, accueil d'artistes et aussi d'études de ce qu'il y a juste à nos pieds, une petite fourmi ou une grande cité. On étudie tout et on regarde tout avec encore des cœurs pleins de rire et de larmes. Merci à vous.
Merci à tous et retour sur Terre après cette heure au paradis.